c'est l'heure de chute, on écoute la télé. Votre talk show radio sur Attitude, votre radio en Charente avec Alain Jeanne.
Succomber au plaisir d'un dessert Marais Morin en écoutant Chute, on écoute la télé. Marais Morin, une entreprise familiale, un goût inimitable. Retrouvez la fameuse mousse au chocolat à l'ancienne et vos recettes sans colorant, sans conservateur et vos points de vente près de chez vous sur marais-morin.fr. On écoute la télé avec votre espace culturel Leclerc de Barbezieux, votre référence culturelle en Sud-Charente. Chut, on écoute la télé avec votre Club Med La Palmière Atlantique. Envie de vous évader le temps d'une journée ou d'une soirée au lit inclusive? Avec votre Club Med, c'est possible. Profitez des animations et des activités sportives, de la restauration le temps d'une parenthèse bien méritée. Pour renseignements et réservations, au 05 46 39 77 30. Club Med, venez vous étonner.
Bonjour à tous et très bon début de semaine. Je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Chute, on écoute la télé, l'hebdo sur Attitude. J'ai le plaisir de vous accompagner pendant une heure, pendant votre déjeuner, entre 13h et 14h. On va passer en revue ensemble l'actualité culturelle de la semaine avec tous nos invités. Alors, sans plus tarder, voici tout de suite le sommaire.
Chute, on écoute la télé,
le talk show radio.
Allez, au sommaire de cette deuxième émission de l'année 2024, notre deuxième coup de cœur ciné cette semaine va être consacré au film Le Voyage au Pyjama, qui sortira le 17 janvier au cinéma. À cette occasion, le réalisateur Pascal Thomas et Alexandre Lafaurie, le comédien principal, seront nos invités. On va également parler de la sortie de Berlin, le préquel de La Casa des Papel, avec Julien Pascal, l'un des héros de cette nouvelle version. Spécial Sam qui fait son grand retour ce soir sur TF1. À cette occasion, la productrice Aline Panel viendra nous dévoiler toutes les modifications et les changements de cette nouvelle version, avec Hélène de Fougerolles qui sera également avec nous et qui incarne cette nouvelle Sam. Et puis c'est le grand retour, vous le savez aujourd'hui, de Plus belle la vie, encore plus belle, à 13h40 sur TF1 et à 20h25 sur TFX. À cette occasion, la productrice Clémentine Planchon, la réalisatrice Claire de la Rochefoucauld et Jérôme Bertin alias Patrick Nebout seront nos invités exceptionnels dans Chute, on écoute la télé.
Nos coups de cœur télé cette semaine.
Allez, c'est le grand retour de Sam, 7e saison inédite ce soir sur TF1. Et quel grand plaisir de retrouver notre héroïne sous les traits d'une nouvelle comédienne qu'on va recevoir dans un instant, Hélène de Fougerolles. Mais juste avant, la productrice Aline Panel est avec nous. Bonjour Aline.
Bonjour Alain.
Merci d'être avec nous, une habituée de l'émission évidemment, puisqu'on a eu le bonheur de t'accueillir pour Je te promets que t'as tourné ici dans notre belle région. Aline, c'est un renouveau pour Sam, un troisième renouveau.
Oui, alors on peut citer en fait plusieurs citations. Donc on dit il faut que tout change pour que rien ne change, fameuse citation du Guépard, mais plus proche de nous, tout simplement James Bond. Voilà, je dis ça en rigolant, mais c'est vrai que Sam, elle est proche de nous. C'est une des premières héroïnes qui est arrivée à la télévision en ayant des défauts, beaucoup de défauts, qui se prend des murs, qui réussit pas tout, etc. Donc moi souvent je disais mais en fait Sam c'est moi. Et puis au fur et à mesure que je voyais les gens arriver, ah mais non, mais c'est aussi Alexandra qui écrit, mais non, c'est aussi machin, c'est aussi bidule, etc. Et en fait, c'est aussi plusieurs femmes qui peuvent l'incarner. Et aujourd'hui, c'est Hélène, pour notre plus grand bonheur, qui reprend en fait la veste en cuir de Sam.
Eh ben oui, parce qu'elle va pas quitter sa veste en cuir et sa belle chevelure blonde, hein, évidemment. Et c'est donc Hélène qui reprend le flambeau. Ça a été une évidence, Hélène?
Ah oui, vraiment, et un cadeau. Je peux pas le dire autrement. Et donc, du coup, elle te répondra mieux que moi, mais elle s'est aussi appropriée. Enfin, voilà, elle a travaillé sur des textes en fait qui sont Sam. Et puis après, c'est son interprétation.
On rentre dans la veste en cuir, comme tu dis. Plein de nouveaux personnages, évidemment. Et puis des personnages qu'on va retrouver. Celui du maire, Thierry Neuvik. Et puis Anne-Marie, évidemment, qu'on aime tant. La directrice de l'école, Chantal Latsou, qui est juste dingue. Une petite manquante, qu'on aime beaucoup, c'est Barbara Cabrita. C'est pas exclu qu'elle revienne pas une autre. Mais voilà, problème d'agenda, je crois, sur cette saison. Mais voilà, il y a plein de personnages, en tout cas, qu'on retrouve. Fred Testo. Vous allez voir qu'il a un petit peu changé physiquement aussi dans cette saison.
Oui, il a changé parce qu'il a aussi changé de statut. Donc, je vous en...
Et il va en faire des caisses sur ce statut, vous allez voir. Aussi, il va même prendre un petit peu le melon.
Absolument, pour notre plus grand plaisir, parce que je pense qu'il va vraiment nous faire beaucoup rire dans son côté insupportable, en fait, qu'on aime bien.
C'est ça qui est bien avec Sam, c'est que on rit, on pleure, on vit avec la comédienne, parce que c'est une série qui vit. Rita, dont est issue la série originale, avait eu combien de saisons ?
5 saisons, et on est à 7.
Donc c'est battu, record battu.
Oui, et puis là, on peut vraiment dire qu'on est très très loin du format d'origine. On a gardé ce personnage, mais qui est devenu notre personnage, parce qu'effectivement, il évolue au gré des actrices, au gré du temps, au gré de... comme les êtres humains, en fait. Voilà. Et tout le reste, bah, maintenant, c'est vraiment... d'autant plus depuis qu'on n'est plus à Franconville, on est une école de campagne avec des nouveaux personnages, un nouveau format avec... l'aspect familial a été remplacé ici, je dirais, par l'aspect village, qui est une autre forme de famille et qui est aussi une autre forme de message pour dire que la famille, c'est pas forcément aujourd'hui la famille au sens strict, mais c'est aussi la famille qu'on se donne.
On va évoquer évidemment Charlotte Gassiot et Fanny Gilles qui nous rejoindra la semaine prochaine d'ailleurs pour continuer à parler. Notre Véro national, on l'adore aussi. Et puis Aurélie, qui a tellement évolué Charlotte, le personnage de Charlotte a tellement évolué au fil des saisons entre la Aurélie très timide du départ avec ses petites lunettes et aujourd'hui, voilà, femme accomplie et qui se retrouve dans cette maison qu'elle a achetée justement en se mettant au vert. C'est vraiment une belle évolution pour le personnage de Charlotte aussi.
Ah oui, et puis c'est une évolution très naturelle parce que Sam... Au fond, c'est une série féministe. Et on pense toujours à Sam, évidemment, qui l'incarne pleinement. Et là, encore plus cette année, puisque le sujet, je veux pas le dévoiler, mais il parle vraiment de est-ce qu'on est une femme à part entière toute sa vie, même quand on dépasse 50 ans. Et je pense que les femmes vont vraiment apprécier qu'on traite de ce sujet. Mais là, pour Aurélie, ouais, c'est ça. C'est aussi une femme qui s'accomplit, qui le devient, qui prend son indépendance courageusement en main, qui élève seule son enfant. Et la comédienne le fait formidablement bien.
On termine par tes projets avec Authentic Prod, Aline, juste avant d'accueillir Hélène de Fougerolles qui va nous rejoindre dans une poignée de secondes.
Alors, je peux pas trop en parler encore, je suis désolée, mais en tout cas, j'y travaille, j'ai beaucoup de projets, beaucoup de beaux projets, notamment pour TF1, divertissants, comme j'aime faire, avec du fond, avec de l'action, mais avec des sujets toujours très humains et très tendres sur l'humanité.
Merci beaucoup.
Merci à toi, au revoir Alain.
Et tout de suite, Hélène de Fougerolles nous rejoint juste après la bande-annonce de cette 16e saison de Sam.
Alors, je vous ai manqué ? Mais elle revient pour de vrai ?
Oh là là, c'est tendu la rentrée.
Après ménopause, Mazel Tov ! C'est la meilleure période de la vie qui arrive. Oh, mais si, c'est merveilleux. Oh, la libido repart comme en 40. Moi, avec Alain, c'est la folie, hein.
C'est pour ça que vous l'avez laissé tout seul à Caracas,
hein. Il avait besoin de récupérer. Allez, bonne journée.
Notre coup de cœur télé est consacré à Sam qui fait son grand retour ce soir sur TF1. Et on est très heureux d'accueillir notre troisième Sam à notre micro, puisqu'on a été là dès la première saison. Hélène de Fougerolles, qu'on accueille avec grand plaisir. Bonjour Hélène.
Bonjour.
Moi, j'ai eu la chance de voir les épisodes un petit peu avant tout le monde. Et je peux vous dire que ce soir, vous allez être surpris, mais à la fois aussi dans la continuité, tout en apportant, eh bien, ça touche à elle, Hélène. Et franchement, ça passe crème.
Ah bah écoutez, merci beaucoup. J'étais très heureuse de pouvoir interpréter Sam parce que c'est vrai que j'ai peut-être un peu plus de parfois fragilité, un peu de sensibilité et que Sam c'est quand même un personnage brut de décoffrage et en même temps, si j'arrive à apporter cette petite touche en plus, c'est mon interprétation à moi, mais voilà, j'espère que ça vous plaira.
Ouais, il y a une petite touche de douceur en plus finalement.
C'est ça, et en même temps, ça reste quand même un personnage haut en couleur, rock'n'roll, qui est déculpabilisante au possible, parce qu'elle fait n'importe quoi, elle est souvent inconséquente.
C'est ça qui nous plaît, à nous téléspectateurs.
Bien évidemment, et c'est ça qui est jouissif à jouer aussi pour moi, c'était extraordinaire. Mais j'aimais bien rajouter ce côté justement un peu rentre-dedans pour cacher sa fragilité, ou parfois pour comme une sorte de défense, ce qui n'était peut-être pas dans le personnage de Sam avant, c'est quelqu'un qui est un peu plus rentre-dedans parce qu'elle réfléchit pas trop. Et donc j'espère avoir apporté un petit peu de douceur. En tout cas, j'ai pas fait exprès, c'est que ça me déborde de partout, c'est surtout ça.
On n'hésite pas un instant à reprendre un personnage comme celui-là.
Alors, je vais vous dire une anecdote. Beaucoup de personnes m'ont demandé juste avant de tourner, ça va, t'es pas trop stressée de reprendre le rôle de Sam? Je dis, bah non, je vois pas pourquoi je suis stressée, je suis comédienne. Enfin, et au bout d'une semaine, j'ai compris. Et je me suis dit, mais j'aurais tellement dû m'angoisser. Parce que c'est la première fois que je devais pas interpréter un personnage, mais rentrer dans une chaussure qui n'était pas la mienne et qui n'est pas du tout ma façon ni de marcher, ni de parler, ni mes intonations. Et on me demandait vraiment de ne pas trouver ma propre interprétation, mais de rentrer dans quelque chose qui existait déjà. Mais ça a été un peu douloureux pendant au moins 10 jours.
Ouais, mais ça c'est normal. C'est normal après. Alors, on va voir Sam qui revient au village qu'elle avait quitté. On va dire avec perte et fracas, hein, je crois. Et puis elle va y retrouver un petit peu évidemment l'école. Sur place, notre Anne-Marie, qu'on aime tant aussi, Chantal Latsou, on y retrouve toute une galerie de personnages, et puis surtout Thierry Neuvic.
Thierry Neuvic qui fait le maire du village et qui est aussi anciennement l'amoureux de Sam. Alors qu'est-ce qui va se passer, parce qu'il s'était aussi quitté
de façon douloureuse,
on peut dire ça comme ça. Est-ce qu'ils vont se retrouver de façon douloureuse aussi? Ça, vous allez pouvoir le découvrir dès ce soir. Mais oui, quelle chance de jouer avec des acteurs pareils. Chantal Latsou, mais je l'aime tellement, elle est extraordinaire. Puis bien sûr il y a Fred Testo, Charlotte Gassio, Fanny Gilles. J'ai eu la chance de me retrouver avec des personnes qui m'ont accueilli à bras ouverts, alors que ils étaient là depuis longtemps, c'était déjà un peu une famille. Même l'équipe technique était là depuis longtemps. C'est que le metteur en scène et moi, on est arrivés. Puis il y a un nouveau personnage qui est Amaury de Crayoncourt et qui vient de débarquer en même temps que moi et qui est aussi un acteur formidable et qui ajoute encore du peps dans cette grande aventure.
Mais oui, on imagine bien qu'il va y avoir des nouveaux personnages pendant cette saison. Et puis il y a toujours aussi quand même à couteau tiré cette relation avec Véro. Hein. Ça se bat quand même pour Fred Testo, hein. Les deux toujours un peu. Hein.
Oui, c'est ça qui était amusant, c'est que moi je connais, enfin j'ai pas vécu ça avant, c'était Natacha, donc l'actrice qui jouait ce rôle et qui a tout cet historique. Donc moi j'arrive avec un peu des bagages que je ne connaissais pas, mais j'ai eu du mal à être en rivalité avec Fanny parce que je venais la rencontrer et que je l'aime énormément, on a plein de choses à se raconter. Mais bon, voilà.
Comment t'as travaillé le rôle pour le coup? Est-ce que tu as voulu voir un peu des épisodes avant, ou alors tu te l'as interdit? Tu t'es dit non, je préfère pas. Comment tu as fait, toi?
Alors, j'ai voulu voir Rita, qui était donc la série à l'origine, et j'ai pas du tout aimé. J'ai pas aimé parce que le personnage était vachement plus... Ça manquait de douceur à mon goût. C'était vraiment brut.
Un peu trop cash.
Ouais, un peu trop dur, un peu trop cash. Bon, je me suis pas du tout identifiée. En revanche, Natacha beaucoup plus. Elle est belle sans faire exprès. Elle est drôle. Elle est cash. J'ai beaucoup aimé ce côté rock'n'roll. Et j'ai vu les deux dernières saisons avec elle. J'ai beaucoup aimé quand ça bascule à la campagne, en fait. Ça a fait vraiment partie des raisons pour lesquelles j'ai accepté ce personnage, de jouer ce rôle, de réinterpréter Sam, parce que tout à coup, il y a cette bouffée d'air frais qui est de se retrouver dans une école qui est dans un château, avec Chantal Latsou en directrice, dans la campagne, dans un endroit où je crois qu'après le confinement, on a tous eu besoin de ça. Et là, il y avait plein de choses à jouer avec le maire du village aussi.
C'est vrai. Et c'est un tout petit village en plus. Ça doit être mais une fête d'accueillir ce tournage justement pendant 3 mois comme ça dans ce village.
Alors, magie du cinéma, on a tourné dans 2 endroits différents. Que le village n'existe pas du tout, hein, c'est du carton. On a créé des lieux. Ce vrai village avec ses vrais personnages n'existe pas, hein, vous le savez. Non, je rigole.
C'est bien fait alors, hein. C'est très très bien fait.
C'est une histoire qu'on raconte. Non, voilà, on a pioché un peu 2-3 endroits et on a fait semblant de faire un village.
Bon, c'est chouette en tout cas. Moi, je voudrais qu'on dédie aussi un peu quand même cette interview à toutes celles qui ont apporté tellement aussi leur touche à Mathilde Seigné et à Natacha Endinger, à qui on pense évidemment très fort. Et puis moi, je vous invite vraiment à découvrir cette nouvelle mouture de Sam ce soir, et Hélène qui la reprend de façon brillante, vous allez voir. Et vous allez pas vous ennuyer, les 2 premiers épisodes s'annoncent intenses.
Rock'n'roll, comme Sam.
Merci beaucoup Hélène. On termine juste par les projets, en quelques mots. Est-ce qu'il y a d'autres choses dans lesquelles on va te voir d'ici quelques semaines?
Oui, alors je suis en train de tourner, je fais une petite infidélité à TF1, je suis en train de tourner pour France 2 un polar qui se passe dans les Cévennes et qui est très très bien écrit. J'espère qu'il sortira avant cet été, je ne sais pas encore quand ce sera diffusé.
Bon, eh bien, on compte ce qu'on peut souhaiter. Des belles audiences demain matin à 9h.
Ah, c'est ça, ce serait merveilleux.
On sera là, on va tout faire pour.
Que je puisse continuer ça encore quelques années, j'adorerais.
Bon, merci beaucoup Hélène et à très bientôt.
Merci à vous.
Chut, on écoute la télé, le talk show radio. Nos coups de cœur télé cette semaine.
Notre coup de cœur télé, évidemment, aujourd'hui est consacré au grand retour de Plus belle la vie, encore plus belle. C'est le nouveau nom, il faudra faire avec aujourd'hui, puisque c'est le grand retour sur TF1 après le journal de 13h de Marie-Sophie Lacaro. Et puis, c'est également grand retour sur la nouvelle plateforme TF1+, lancée aujourd'hui même, ce 8 janvier. Et on a la productrice de ce nouveau Plus belle la vie, c'est Clémentine Planchon qui est avec nous. Bonjour Clémentine.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. On a été là jusqu'au dernier souffle de la série sur une autre chaîne. Aujourd'hui, c'est un nouveau départ. Le cœur recommence à battre dans le cœur de millions de fans. On peut dire, je crois, aujourd'hui, c'est un peu l'avènement de mois de travail pour faire renaître la série.
Ça, on peut le dire. Bah, déjà, merci de prendre du temps pour parler de cette reprise. On espère évidemment que les spectateurs seront au rendez-vous. Et on a tellement travaillé pendant ce temps record pour faire revivre une nouvelle série encore plus belle qu'avant, on l'espère. Donc voilà, on a travaillé en un temps record quand TF1 a décidé de s'intéresser au projet. Il a fallu, on avait évidemment plus rien de l'ancien Plus belle la vie. Donc on est presque parti d'une page blanche. On a évidemment fait appel à nos copains comédiens qu'on aime pour parce qu'on avait envie de retrouver des personnages phares et qui la nouvelle plus belle la vie encore plus belle ne pouvait pas avoir lieu sans eux.
Bien sûr.
Et puis ensuite il a fallu écrire, construire des décors, refournir, reconstituer des portants de costumes, remonter des bureaux, des ateliers, remettre en place la post-production. On a eu très peu de temps, mais on a eu une super équipe, une vraie équipe de choc pour, dans un temps record, arriver à être en place pour le tournage d'une part. Et puis évidemment, là, ça fait déjà 2 mois et demi qu'on tourne.
Ben donc, oui.
Et on espère tourner le plus longtemps possible.
Alors évidemment, j'imagine que la fourmilière est de retour du côté de la Belle de Mai, mais pas que, puisque c'est aussi à Allo, près de Marseille, que vont se dérouler et que va battre le cœur du nouveau Mistral. Ça doit faire du bien de voir tout ça. Revivre.
On est super content évidemment de revoir tout ça. C'était hyper inattendu, du coup ça crée un enthousiasme fou. Effectivement, on est un peu à Allo, bah ça va être une des différences aussi qu'on a mis en place hein, pour cette adaptation, c'est que la place du Mistral qu'on connaissait n'existait plus. Donc nous l'avons retrouvé ailleurs, en décor naturel, avec un ciel et un beau soleil.
Voilà, un vent de fraîcheur, c'est ce que j'allais dire. Parce que si beaucoup de comédiens sont de retour, évidemment aussi dans cette nouvelle mouture, bien sûr aussi, de nombreux auteurs, de nombreux réalisateurs qui ont fait le succès de la série sont également de retour, hein, puisque les premiers épisodes, et ça c'est un clin d'œil aussi, ont été réalisés par Claire Larochefoucauld et Pascal Elbrock, qui a notamment réalisé le dernier Prime l'année dernière. Donc c'est vraiment un bonheur de les voir. Donc on sent vraiment une famille, quoi, autour de ce retour.
Exactement. C'est tout à fait ça. On est super content que Pascal, qui conclut l'ancien Plus belle, soit celui qui participe à la relance de cette nouvelle version. Et puis, on a eu besoin aussi de s'entourer de nouvelles personnes pour amener un nouveau regard et peut-être aussi permettre de créer cette nouvelle page, parce que comme on dit souvent là entre nous, c'est la saison 1 d'une série qui a 18 ans.
Bon, en tout cas parmi les comédiens évidemment qu'on va retrouver, Stéphane Hennon, Jérôme Bertin, Marie Réache, Léa François, Laurent Kéruzoré et tellement d'autres qui vont venir. Parmi les petits nouveaux, qu'est-ce que vous pouvez nous dire Clémentine? Alors on a vu là, évidemment sur les réseaux, Jade Pradin, la première Salomé de Clem qu'on va revoir avec un immense plaisir en tout cas sur nos écrans, mais il y a aussi Jérémy Charvet, enfin il y a du beau monde quand même. Anthony Joubert.
Il y a du beau monde
dans ce nouveau cast.
On est très contents des castings. En plus, il s'avère que ça marche très bien avec les anciens qui ont été formidables aussi et très accueillants. Donc, on recrée de nouveau une très belle équipe et on est très contents de ce qu'on voit. On a l'impression qu'ils ont toujours été là et que cette nouvelle vie de quartier a toujours existé. Tous ces nouveaux personnages vont très vite être mêlés à nos anciens. L'idée, c'est pas de les isoler. Ils sont donc rattachés, alors, soit par leur vie professionnelle, soit par leur vie personnelle, soit par les rencontres qu'ils vont faire. Mais l'idée, c'était vraiment de les tout de suite de mélanger tout ce petit monde pour nous faire une belle équipe.
Alors, les premières intrigues vont tourner, je crois, autour de Jawad, qui fait son retour, David Bayo, qu'on va retrouver aussi. Et puis, il va y avoir une histoire d'effondrement dans ce premier épisode qu'on va voir aujourd'hui, qui va donner aussi ce prétexte à découvrir un nouveau Mistral. Hein.
Alors, l'effondrement, c'est vrai que c'est ce qui nous permet de faire le lien entre l'ancien Plus belle et cette nouvelle page. Comme il y a à peu près une bonne année qui s'est passée, il fallait aussi qu'on raconte aux spectateurs pourquoi la place du Mistral qu'ils connaissaient n'était plus là. Donc effectivement, on raconte qu'il y a un immeuble qui s'est effondré, qui a mis en péril la place autour. Et c'est pour ça que nos personnages ont dû être relogés un peu plus loin, ailleurs, mais on est toujours à Marseille. L'histoire se passe toujours à Marseille, dans un quartier proche. Et évidemment, Thomas, lui, n'a pas baissé les bras après cet effondrement, a décidé de réouvrir un nouveau bar dans l'espoir d'en faire le nouveau QG de ce quartier. Et on va commencer la nouvelle série avec l'inauguration de ce bar.
J'imagine votre émotion, et peut-être que tout le monde ne devait pas forcément s'y attendre dans la production et chez Newen notamment, c'est de voir que les fans n'ont jamais lâché. À aucun moment, la mobilisation des fans a faibli.
C'est vrai, et ben moi je pense tout simplement que c'est grâce aux fans qu'on est là aujourd'hui, hein. Honnêtement,
c'est
eux qui, justement, en gardant cet esprit, en continuant à en parler, en continuant à susciter de l'émotion, parce que même eux, je pense pas qu'ils s'attendaient forcément à revoir leur programme prochainement, mais malgré tout, le fait que ça continue à être évoqué, les comédiens aussi l'ont beaucoup dit, hein, que dans la rue, tellement de gens leur disaient qu'ils étaient tristes de plus les voir. Et c'est grâce aux spectateurs que nous sommes là aujourd'hui. Mais c'est vraiment grâce à eux qu'on est là.
Eh ben, j'en suis sûr. En tout cas, aujourd'hui, 8 janvier, c'est un jour historique, évidemment, avec la relance de Plus belle la vie, encore plus belle, après le journal de 13h sur TF1. Rendez-vous, évidemment, à ne pas manquer sur la plateforme TF1+, avec en plus de l'avance sur les épisodes. Bref, ça va être vraiment top ici. Merci beaucoup, Clémentine.
Merci beaucoup et soyez nombreux devant votre écran.
Oui, on y sera, promis. Et puis on va enchaîner avec les comédiens réalisation. C'est vraiment une spéciale aujourd'hui. Et puis je voudrais aussi signaler qu'on dédie évidemment cette grande spéciale Plus belle la vie aujourd'hui à Michel Corde et Marwan Berini. Voilà, qu'on embrasse tellement fort. Voilà, là où ils sont. En tout cas, j'espère qu'ils nous entendent. Merci beaucoup, Clémentine. À bientôt.
Merci, à bientôt. Au revoir.
Figurez-vous qu'avant, le bar du Mistral se trouvait place du Mistral. C'était le rendez-vous de tout le quartier. Et puis, tout a disparu.
Ben ça y est papa, c'est le grand jour. Bar du Mistral est enfin de retour papa. Je peux pas décemment rater l'inauguration du bar de mon mari. Faut qu'on trouve une solution.
On continue notre spécial Plus belle la vie, encore plus belle. C'est aujourd'hui même à 13h40 sur TF1. Ce soir à 20h25 ancien horaire de France 3. Et bien c'est sur TFX que la série va renaître également sur la chaîne 11. Donc pour ceux qui étaient fidèles de cet horaire, sachez que vous avez aussi cette option là. Et puis TF1+, évidemment. Et on va continuer à en parler avec celle qui était la dernière productrice de la version France 3 et qui est la première réalisatrice de cette nouvelle version, Claire de la Rochefoucauld, qui est une fidèle. Bonjour Claire.
Bonjour Alain.
Une renaissance tellement inespérée.
Ah oui, effectivement, une grosse surprise. On s'y attendait pas et voilà, on est tous tellement heureux d'avoir pu remettre à l'antenne, d'avoir pu créer aussi une nouvelle série, un nouveau Plus belle la vie.
C'est ce qu'on disait il y a quelques instants, mais la boucle est un peu bouclée quelque part, parce que toi qui a été la dernière productrice, Pascal Elbrock qui a été le dernier réalisateur du dernier Prime, c'est vous deux qui êtes les premiers à remettre le pied à l'étrier de la série. Je trouve que quelque part c'est tellement un beau signal.
Oui, tout à fait. Vincent Mellet, Clémentine Planchon, Stéphanie Brémond ont décidé de nous faire confiance. Voilà, ils nous ont demandé de revenir mettre en image cette nouvelle mouture de Plus belle la vie, et évidemment on a tous les deux accepté avec beaucoup de bonheur.
J'imagine cette émotion sur le plateau d'une de vos retrouvailles, même avec ses absences, ça a dû être par moments pesant, mais aujourd'hui j'imagine quand même ces retrouvailles ont dû malgré tout être tellement belles entre vous.
Oui, bien sûr, les comédiens mais aussi les nombreux techniciens, voilà, on s'est tous retrouvés avec beaucoup de bonheur, évidemment comme tu l'évoquais. Voilà, Marwan, Michel, bien sûr, et puis Marwan est avec nous hein, tous les jours. On pense beaucoup à eux, et voilà. Ça a été très bizarre de redémarrer le tournage quelques jours seulement après que le corps de Marwan ait été retrouvé. Voilà, il nous a porté aussi, parce que on ne peut pas le trahir, et il aurait été tellement fier et heureux d'être avec nous. Voilà, donc on pense beaucoup à lui. Maintenant, évidemment que c'est comme une famille qui se retrouve. Hein. On a toujours dit jusqu'à la fin, Plus belle était une famille, et c'est vrai. Et là, la famille s'agrandit. Voilà, avec des nouveaux comédiens, des nouveaux personnages, des nouveaux auteurs, des nouveaux techniciens.
Et beaucoup de nouveaux décors, mine de rien, parce qu'il y a beaucoup plus de décors extérieurs aussi. Ça doit être super, ça.
Alors voilà, on va être beaucoup plus en extérieur, hein, puisque là, je ne trahis rien en disant que la place du Mistral est aujourd'hui tournée en extérieur et non plus en studio, hein, puisque comme tu le sais, de toute façon, tous les décors avaient été démontés. Donc ce n'est que des nouveaux décors. On a eu la chance, la production a eu la bonne idée d'investir dans des nouvelles caméras qui sont absolument magnifiques, des Arri 35, qui sont des caméras cinéma en fait, et vraiment, c'est un bonheur de tourner avec. L'image est splendide, et puis on voulait absolument que dans Plus belle la vie, encore plus belle, le soleil de Marseille sera encore plus présent. Et je crois, j'espère que ça se ressent dans cette nouvelle mouture.
J'imagine, Claire, l'émotion de ta maman aussi, parce que je pense énormément à Michel Podrosnik aussi, qui est la maman de Plus belle la vie, on peut le dire, je crois, la maman ultime de Plus belle la vie. Vous avez terminé Aventure France 3 toutes les deux aussi, donc j'imagine son émotion de vous voir tous repartir comme ça.
Oui, oui, elle était très heureuse. Alors, elle n'est pas la seule maman de Plus belle la vie, hein. Il y a eu des papas aussi.
Et non, mais c'est la seule qui était là depuis le début, mamans. Qui était là du début à
mais
la fin.
C'est la seule qui était encore là à la fin, en tout cas. C'est vrai. Oui, oui, beaucoup d'émotions. Bon, elle est pas revenue sur cette nouvelle mouture, hein, parce que, voilà, il est temps quand même qu'elle se repose un peu. Mais évidemment, elle est extrêmement heureuse. Elle se tient au courant de tout ce qui se passe. Ça avait été un vrai deuil, la fin de la série, et, voilà, de voir ce quartier du Mistral et ses personnages sont à nouveau là. Oui, ça lui a fait très très chaud, très très chaud au cœur. Mmh. C'est gentil, je lui dirais que tu penses à elle, ça lui fera grand plaisir.
Alors, on va redonner rendez-vous, hein. 13h40, juste après le journal de Marie-Sophie Lacaro sur TF1, donc ça c'est tous les jours. C'est vraiment un peu l'avant-première de l'épisode du jour, puisque pour les fidèles et pour ceux qui travaillent, ne vous inquiétez pas, on le dit, on le redit, la série sera diffusée à son horaire d'origine, 20h25 sur TFX, la chaîne 11. Et en plus, pour ceux qui ont raté l'épisode de la veille, à partir de demain, vous aurez aussi l'épisode de la veille dès 20h. Donc voilà, vous pourrez pas rater tout ça. Et puis bien sûr, la plateforme TF1+, qui a été lancée aujourd'hui, aussi vous permettra, si vous êtes abonné à Max, de pouvoir découvrir deux épisodes d'avance. Bref, vous ne pouvez pas le rater. Voilà. Merci beaucoup, Claire.
Merci, Alain. Merci à toi. Et j'espère à très vite.
J'en suis sûr.
Dans tous ces événements formidables que tu organises avec tant de talent.
Eh ben, écoute, on va revenir juste après avec Jérôme Bertin, alias Patrick Nebout, pour notre plus grand plaisir aussi. À très vite. Merci, Claire.
Attitude.
Quel plus beau moyen que de conclure cette grande spéciale Plus belle la vie, le grand retour avec un des comédiens emblématiques de la série qu'on aime tant, Jérôme Bertin, qui est un habitué de l'émission. Bonjour Jérôme.
Bonjour Alain, bonjour tout le monde.
Écoute,
ça fait plaisir. Hein.
Franchement, c'est incroyable ce retour inespéré. Et quoi de mieux pour vous souhaiter une merveilleuse année 2024 à toute l'équipe évidemment et à vous tous en ce 8 janvier, parce que ce retour est tellement espéré que l'année qui arrive s'annonce tellement encore plus belle.
Merci beaucoup Alain pour tes vœux, parce que bah tu vois, ça nous a porté, et à mon tour, au nom de toute l'équipe, on souhaite évidemment tous nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2024 pour les fans et les auditeurs de ton émission.
Vous aviez tous perdu espoir de ce retour.
Écoute, c'est vrai que moi j'y ai cru très très longtemps, et à un moment je me suis dit bon bah faut arrêter là, il faut faire le deuil, parce que sinon j'avançais plus quoi. Donc voilà, et c'est évidemment au moment où tu dis c'est mort que là tout d'un coup t'as le coup de fil de la fée Clochette, en l'occurrence Vincent Mellet, qui est un des patrons de New N, qui nous a demandé si on était partant. Et évidemment, on a tous tout de suite dit bah oui, à fond. On pouvait pas laisser mourir Plus belle la vie, c'était pas possible quoi. Donc on avait très envie de repartir, et là ça y est quoi, on arrive.
Et oui, et puis la famille Nebout quasiment au complet fait son grand retour dans cette nouvelle mouture. On en parlera un petit peu, parce que moi je vais militer pour que Laurie Bordesoul revienne avec vous aussi, et que Laurie soit rappelée dans les jours qui viennent. On peut pas faire une famille Nebout sans Émilie, c'est pas possible. Mais en tout cas, voilà, les deux maris sont de retour évidemment, et puis Elisabeth Comelin aussi. Quel bonheur, et cette famille Nebout est tellement dans le cœur des spectateurs.
Ben ouais, c'est vrai que on le voit tous les jours dans la rue, etc. Ben tu sais, c'est une famille historique de la série, c'est une famille qui a pas bougé, c'est-à-dire que on s'est jamais séparés. Enfin, il y a eu des histoires évidemment, mais la famille elle est complète, elle est là, elle est toujours soudée, même si parfois entre Patrick et Babette c'est un peu chaud, mais ça c'est normal quoi. Mais oui oui, on est à fond. Et puis en plus, il y a quand même une nouveauté, puisque cette fois, la famille Nebout, c'est pas vraiment, elle est pas complète. Maintenant, c'est la famille Boer Nebout, ou Nebout Boer, comme tu veux.
Eh ben oui.
Donc,
avec les enfants.
Ça, c'est génial. Alors, en plus, alors non, on va pas faire. Moi, je n'ai pas l'intention, que les choses soient très claires, Alain. Je ne ferai pas d'enfants avec Boer. Ok.
On y a cru pendant un temps.
Mais bon, non, là, ça va aller. Je crois qu'il y a des limites à pas dépasser non plus. Hein. Donc non, mais voilà, on est super contents, parce qu'en plus, et ça c'est une des nouveautés de l'adaptation de la série, puisque maintenant c'est Plus belle la vie, encore plus belle, et les Boer et les Nebout vivent dans le même appartement. Et ça, ça donne lieu à toutes sortes de scènes qu'on n'avait pas forcément l'occasion de jouer jusque-là, et on s'éclate comme des malades. Les auteurs nous ont déjà écrit pas mal de scènes, un peu de comédie, donc je pense que ça va beaucoup faire rire les fans, le public de TF1, et j'espère qu'on va continuer à développer ça, parce que qu'est-ce qu'on se marre, quoi. On a une nouvelle commissaire maintenant, qui est jouée donc par Moon Daly.
Ah ouais, qu'on a grand plaisir à revoir, ça c'est clair aussi.
Ouais, on a quand même une actrice américaine dans Plus belle la vie, quoi.
Ben oui.
C'est pas rien, quoi. Vous voyez comment on arrive?
Ah ben le level, quoi. Le level.
Voilà. Et puis il y a aussi un nouveau flic, enfin deux autres nouveaux flics. Donc bref, oui, on va être là à la fois à jongler entre la partie police et la partie familiale. Et ça, c'est génial.
Alors malgré tout, est-ce que les Nebout, puisqu'on va voir ça dès aujourd'hui, mais est-ce que les Nebout du coup ont déménagé? On va plus revoir leur appartement historique?
Non. On le reverra plus, et ça nous a fait quand même un coup à Marie et moi et à toute la famille Nebout de quitter l'appartement qu'on adorait. Mais quand vous allez découvrir le nouveau décor de la famille Nebout, là vous allez voir qu'on a gagné au change. C'est-à-dire qu'on a des décors qui sont sublimes, la lumière est magnifique, enfin vraiment ça va être très beau à l'écran.
Ouais, et puis un changement à l'image aussi, on le voit dès les bandes annonces qu'on a pu voir et tout, il y a un changement de graphisme même sur l'image et tout, ça a l'air assez incroyable.
Tu vois, c'est pas normal, on est plus beau qu'avant alors qu'on est plus vieux. Tu vois, c'est dingue.
Ouais, mais c'est pas pris une ride, je suis sûr.
Ça, c'est la magie TF1, tu vois.
T'es corporate déjà, je vois, c'est bien.
Bah ouais, on est content. Nous, on est tellement heureux d'arriver sur TF1, c'est quand même un bonheur.
Bah oui.
Voilà, on est sur la plus grande chaîne d'Europe. On va, bah voilà, conquérir, j'espère, un nouveau public et puis faire venir tout notre public qui, en tout cas, nous dit qu'il sera là ce soir, enfin aujourd'hui plutôt, et tous les jours qui viennent, quoi.
Ben oui, c'est clair. Et puis TF1+, la plateforme aussi, hein, pour tous ceux qui disent oui, l'horaire, etc. Mais c'est vachement bien l'horaire parce que ça permet de prolonger un peu la pause déjeuner. Et puis en même temps, ben voilà, pour ceux qui travaillent, il y a toujours la plateforme aussi qui va pouvoir aussi, voilà, vous apporter non seulement Plus belle la vie, encore plus belle, mais avec en plus des épisodes d'avance, mon petit doigt m'a dit. Donc franchement, c'est extraordinaire de pouvoir vous découvrir avec en plus un peu d'avance pour les impatients.
Ça, c'est un atout, je veux dire, là, clairement. Avec cette plateforme qui va arriver en même temps, qui va faire de Plus belle la vie un des produits importants, etc. Pour les fans, il y aura la possibilité de regarder en avance, de payer, et ça comme avant, quoi. Donc ça va être comme avant en mieux. Donc c'est formidable.
Jérôme, première intrigue qui va concerner Patrick Nebout. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots sur ce qui arrive aujourd'hui, en tout cas à l'écran, sans trop nous en dire, évidemment, pour qu'on puisse découvrir. Mais je crois que ça va tourner un peu autour du personnage de Francesco.
Alors. Il y a une première intrigue où effectivement la police est impliquée et qui implique Francesco Ibaldi et Estelle Cantorelle qui sont donc un peu au cœur de ce redémarrage de Plus belle la vie, encore plus belle. Ensuite, moi je suis pas mal au commissariat et avec des scènes qui sont très drôles, que je joue avec Stéphane, et un peu plus tard, mais ça, il va falloir être un tout petit peu patient, il va y avoir une belle intrigue autour du personnage de Patrick, et pas seulement de Patrick. Donc voilà, vous allez me voir un peu là, ces temps-ci.
Eh ben super, en tout cas, Elisabeth Comelin également fait son retour, hein, évidemment, Marie Réache, Marie Henré, et puis voilà, je le disais, on espère évidemment le retour de Laurie Bordesoul et d'Émilie Debout, qui est la seule absente de la famille Debout pour l'instant. On compte sur vous, hein, pour la faire revenir vite, hein.
Oui, moi je suis absolument d'accord. J'adore tourner avec cette actrice. C'est une très grande actrice.
Ah, incroyable.
Et donc j'adore. Elle apporte de la fraîcheur, de la. Enfin, je sais pas. C'est un bonheur. Elle est solaire. Mais je sais qu'elle bosse beaucoup en ce moment.
Et oui, au théâtre et tout. On l'embrasse. En tout cas, je sais qu'elle nous écoute quasiment toutes les semaines et on l'embrasse en tout cas très très fort. En attendant très vite, j'espère son retour en 2024. Parce qu'au fur et à mesure aussi, il y aura des surprises tout au long de l'année 2024. Vous pouviez pas revenir tous en même temps. Donc on espère en tout cas voilà tout au long de l'année qu'il y aura de belles surprises qui nous attendront.
Voilà, exactement. Et nous, en tout cas, on est tellement contents que ce soit reparti. Donc, on compte sur tout le monde parce que c'est une grande fête pour nous, ce 8 janvier.
Eh ben, écoute, on a été là jusqu'au dernier souffle de la série. On est là quand le cœur se remet à battre. Hein. J'aime donner un peu cette image. Mais voilà, on est là aujourd'hui pour ce grand retour. Plus belle la vie, encore plus belle, juste après le journal de 13h. C'est également en streaming sur la plateforme TF1+, avec en plus de l'avance aussi pour les abonnés au max de la plateforme. Et puis, évidemment, voilà plein de surprises qui nous attendront et puis on va aussi dérouler tout au long des semaines, on va faire connaissance avec les nouveaux personnages. Mon cher Jérôme, merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous.
Merci beaucoup Alain, très belle année 2024 pour tout le monde.
Et tu embrasses tout le monde de notre part, évidemment, on est avec vous.
Bisous.
Chut, on écoute la télé, le talk show radio. Le coup de cœur ciné de la semaine.
Notre coup de cœur ciné cette semaine est consacré au voyage en pyjama. Le voyage en pyjama, c'est le nouveau film de Pascal Thomas, qui est notre invité aujourd'hui. Bonjour Pascal.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Et puis son héros principal, Alexandre Laforie, qui est avec nous. Bonjour Alexandre.
Bonjour.
Qui nous embarque avec Victor dans un bien joli road movie à travers ce film. Mais d'abord, on va planter un peu le décor avec Pascal. Où est venue l'idée de ce film, Le Voyage en pyjama ?
Enfin, l'idée, c'était l'histoire d'un type qui était viré par sa femme, qui se retrouvait en pyjama parce qu'il l'accompagnait à l'aéroport et ensuite qui allait revoir toutes ses pratiques, la région dans laquelle il avait vécu, etc. Mais il y a maintenant, je ne sais pas si c'est venu de cette idée-là, voilà. Mais c'est l'histoire.
Alors, Alexandre, le scénario est co-signé par une certaine Nathalie Laforie.
Oui.
N'y aurait pas une petite cause à effet ?
Alors, vous voulez dire, oui, c'est ma mère, effectivement. Et la relation de cause à effet, moi, c'était pas moi qui était prévu au début, en tout cas, de ce film. Et puis, les choses ont fait que ça leur est venu en tête à un moment donné. Ils m'ont fait cette proposition que je n'ai pas su refuser. Parce que, c'était à la fois... j'étais très excité à l'idée de faire ça, avec quelques réticences au début, qui se sont très vite effacées, parce qu'à partir du moment où j'ai décidé de les suivre, je ne me suis plus posé de questions, et ça a été une aventure extraordinaire. Ça a été une aventure extraordinaire de 5 semaines, très intense, mais Pascal dit souvent, c'est pas du travail, c'est du plaisir, et ça peut être une plaisanterie, c'est pas faux.
Avec en plus un joli duo, Constance Labbé aussi, qu'on adore évidemment et qu'on embrasse très très fort, qui a plein de projets aussi. C'est vraiment un road movie, c'est-à-dire Victor est quitté par sa femme, elle emmène tout, les clés, la voiture et tout, lui se retrouve avec sa bicyclette en pyjama dehors et va décider de partir en fait tout simplement, un peu à la rencontre de son passé hein, en quelque sorte.
Exactement, à la rencontre de son passé, sans avoir de plan particulier, les choses se font d'elles-mêmes. À un moment donné, il y a cette réplique dans le film, cette idée de se laisser porter sur l'eau comme un bouchon, et c'est un petit peu ce qu'il fait. Il va rencontrer d'anciennes conquêtes, des vieux copains, il va faire des nouvelles rencontres aussi.
À la rencontre de son passé et de son futur.
C'est ça. Exactement. Voilà, ce petit retour sur son passé va effectivement créer son futur aussi, générer des rencontres, des nouvelles amitiés,
des nouveaux amours,
exactement.
Qu'est-ce qui vous a séduit en premier, Alexandre ? C'est un peu la certaine poésie qu'on retrouve dans tous les films de Pascal aussi, cette Pascal Thomas touch.
Oui, cette Pascal Thomas touch, effectivement. Ben moi, comme disait Pascal, on a fait, c'est le 7e film sur lequel on travaille ensemble, et il y a effectivement ce côté et qui à mon avis dans ce film revient fort.
Puis souvent il y a une deuxième réécriture hein, au montage, etc. Et ça peut être un peu entre le tournage et le montage, il y a souvent une deuxième écriture le montage. Donc on peut être surpris par certaines choses effectivement.
Oui, et Pascal a cette il aime changer les choses. Il y a de l'imprévu. Et l'imprévu, les changements pour les acteurs, pour les comédiens, ça peut être un petit peu, ça peut être un petit peu angoissant sur le moment. Mais finalement, c'est ça qui crée cette fragilité. C'est ces petites choses qui l'amènent comme ça.
Cette magie.
Exactement. C'est ça qui fait la petite touche, cette magie, comme vous dites effectivement.
Ouais. On va écouter la bande-annonce. Le Voyage en pyjama, ça sort mercredi au cinéma, et on revient juste après avec vous. Je vous rappelle qu'on est avec Alexandre Laforie et Pascal Thomas pour parler de ce coup de cœur ciné cette semaine.
Excusez-moi, le vol de 9h15, s'il vous plaît.
Pourquoi à votre départ ?
Vous appelez Paul-Émile, dit Victor. Vous êtes le mari d'Anne, vous êtes professeur de lettres et vous avez une grenouille qui s'appelle Ninette. Je pars pour Compostelle à vélo.
Et si je venais avec vous ?
Ben pourquoi pas ?
Voilà, le voyage en pyjama, notre coup de cœur ciné cette semaine. Alors Pascal, comment on arrive justement à trouver ces petites choses qui vont faire qu'il faut rentrer dans une économie d'un film où des fois il n'y a pas beaucoup de budget? Comment on fait pour trouver justement toutes ces petites parades pour permettre aujourd'hui d'arriver à ce qu'on va voir mercredi au cinéma?
Mais ça arrive aussi dans les films à gros budget, j'en ai fait. Mais non, ce qu'il y a, c'est la vie qui vous apporte ça. Vous voyez, cette rapidité à choisir et organiser qui font les scènes.
Je sais que c'est difficile des fois pour un réalisateur de répondre à cette question, mais est-ce qu'il y a eu une scène où derrière la caméra, vous avez eu une scène préférée peut-être? Ou est-ce qu'il y a une certaine magie qui a opéré peut-être encore plus que dans les autres?
D'une scène avec Constance Labbé sur le quai de la gare, ils se sont rencontrés dans le train et puis ils se connaissent pas, ils se parlent et d'ailleurs le texte est venu, c'était dans le scénario ou pas ce texte sur le sourire?
C'était dans le scénario, mais de toute façon il y a tellement de choses qui ont changé.
C'est une scène, bon, ils se rencontrent et lui dit dites oui. À cette femme qui va aller à ses occupations, elle dit oui. Répétez oui, oui, oui. Répétez encore oui. Dites non maintenant. Elle dit non. Mais pourquoi vous me demandez ça? Je me suis toujours demandé si les lèvres étaient plus jolies quand elles disent oui ou quand elles disent non. Et vous, c'est oui. Et elle demande, et moi, c'est oui. Pourquoi vous partez? Elle s'en va, elle dit, mais pourquoi vous partez, etc. Parce que j'ai des choses à faire. Il la rappelle, elle fait non. Donc ça, il le joue merveilleusement. Je sais pas si j'ai bien raconté, mais il le joue, mais magnifiquement. Et là, c'est leur scène d'adieu, et j'ai les larmes qui viennent encore maintenant. Tellement c'est bouleversant.
Quand on est derrière la caméra, ça peut donner effectivement quelque chose. Même question, Alexandre. Est-ce qu'il y a une scène particulière que vous avez peut-être plus appréciée que les autres encore? Même si, voilà, c'est difficile des fois de répondre à cette question.
Alors, j'ai pas en tête une scène particulière. Ce qui est certain, c'est que j'ai beaucoup de textes, forcément.
Et dans tous les plans. Ouais.
Et j'ai eu, je crois, une ou deux journées un petit peu compliquées parce que c'était plus difficile que le reste. Et sinon, je vous dis, c'était j'ai adoré tourner avec Constance. C'était les scènes qu'on a ensemble, ça reste des très bons souvenirs. J'ai beaucoup aimé faire du vélo dans le paysage comme ça, conduire la vieille Vespa des années 60. C'était très sympa. Non, j'ai pas vraiment une scène en tête. J'ai vraiment
c'est un ensemble.
C'est un ensemble. Ce bouquet de c'était vraiment c'est très triste quand ça s'arrête, hein. C'est douloureux, hein, quand c'est fini, je trouve. Voilà, on aurait voulu que ça continue. Effectivement, 5 semaines, c'est à la fois court et en même temps, comme c'est très intense, parce que c'est vrai que c'est une performance. Tout à l'heure, on dit comment on fait pour faire ces films quand on a un petit peu moins de budget. Bah, déjà, on le fait quand on est bien entouré. Et l'équipe était formidable. Les gens étaient d'abord extrêmement professionnels. Moi, c'est toujours ce qui m'a fasciné dans le cinéma, c'est que il y a assez peu de place à la médiocrité. Les gens sont excellents dans ce qu'ils font, et je suis toujours très admiratif.
Et ben, vous allez voir ce road movie, en tout cas bien sympathique. C'est mercredi dans les salles. Ça s'appelle Le Voyage en pyjama. Merci Alexandre, merci Pascal d'être venu nous voir en tout cas. Et puis on va se faire le porte-parole en tout cas de ce joli film. À bientôt.
Merci. À bientôt. Mais venez nombreux.
Merci beaucoup. Au revoir.
Le coup de cœur, plateforme de la semaine.
Allez, notre coup de cœur plateforme, évidemment, est consacré à Berlin, qui vient de sortir sur Netflix depuis le 29 décembre dernier. On peut découvrir les aventures, le préquel de La Casa des Papel. Et on a justement des acteurs avec nous au téléphone, Julien Pascal, qui incarne Polignac dans la série. Bonjour Julien.
Bonjour Alain.
Merci d'être avec nous. C'est une aventure de dingue, La Casa des Papel. Quand on a la chance d'arriver comme ça, voilà, sur un nouveau projet, sur un retour un peu en arrière, un préquel de cette histoire. Déjà, comment on réagit quand on est comédien, quand on arrive sur une aventure comme ça? On se précipite sur les 5 saisons de La Casa avant ou pas?
Dans mon cas, non, je l'ai pas fait. J'avais vu quelques épisodes, je connaissais le phénomène, évidemment.
Ben oui.
Mais je regarde pas forcément les séries au moment où elles sortent. Donc je comptais la regarder au moment où j'ai passé le casting pour Berlin et pour lequel j'ai été pris. Donc j'ai hésité à binge-watcher la série. Et puis je me suis dit qu'il valait peut-être ne pas, pour pas être influencé même inconsciemment par d'autres personnages. Et puis Berlin se passe avant La Casa des Papel, donc mon personnage n'était pas censé savoir non plus ce qui se passe dans le futur. Et aussi, je voulais pas être trop impressionné en arrivant sur le plateau par Pedro Alonso, qui joue Berlin et qui est un super acteur. Donc j'ai décidé de pas binge-watcher avant d'aller tourner.
Alors, cette série, on la découvre maintenant sur Netflix, et la particularité quand même, c'est qu'elle a été tournée beaucoup à Paris, en France, hein, notamment.
Oui, toute une partie de l'histoire se passe à Paris. Donc on a commencé le tournage à Paris, effectivement. Ouais.
Comment on pourrait donner de l'eau à la bouche de nos auditeurs pour qu'ils aillent se précipiter pour aller découvrir Berlin maintenant sur Netflix? Comment ça commence? Comment on pourrait décrire les cinq premières minutes, en tout cas, de la série, de ces huit épisodes?
Oh, les cinq premières minutes, c'est assez dense. Oui, ça va très très vite. Mais on constate dans les cinq premières minutes que Berlin divorce de sa troisième épouse, je crois, et que du coup, il a un petit souci avec l'amour, qu'il n'y croit plus vraiment. Qui ne croit plus en l'amour éternel, qui ne croit plus en ses contes de fées, jusqu'à ce qu'il rencontre une demoiselle qui va éventuellement lui faire recroire en l'amour.
Ah, c'est bien teasé ça.
Et en parallèle à ça, il va monter un casse avec sa bande de l'époque, qui est totalement différente de celle de la Casa de Papel. Un casse énorme à la David Copperfield.
Et puis on va s'apercevoir quand même que Berlin avait déjà croisé Raquel Murillo, du coup, avant la Casa des Papel.
Absolument, mais je n'en dirai pas plus parce que je ne veux pas spoiler les téléspectateurs.
Et non, et en plus, on va juste vous dire qu'effectivement, c'est une des rares actrices que vous avez vues dans la Casa des Papel que vous allez retrouver aussi dans Berlin, puisque là, le casting est tout nouveau, hein, puisqu'on va découvrir les aventures de Berlin avant la Casa des Papel, ce qu'on appelle un préquel, en tout cas en langage de série. Est-ce que vous avez un souvenir à nous raconter particulier du tournage, Julien?
Oui, plusieurs, en fait. Ce qui me vient à l'esprit, c'est une des premières scènes que j'ai tournées avec Pedro Alonso, donc Berlin, où j'étais un petit peu stressé le matin avant de tourner. Et Pedro est assez bon client et assez fan de la méditation. Donc, il a initié plusieurs fois sur le tournage, juste avant de tourner, des petites séances, des mini-séances de méditation pour lui et les autres acteurs avec qui il jouait, donc moi en l'occurrence et Samantha Siqueiros. Juste pour nous permettre de nous concentrer la petite minute avant de commencer à tourner, avant que le réalisateur dise « action ». Et c'était super, super agréable. C'était très intéressant de travailler avec Pedro, en partie pour ça, mais aussi parce que c'est un acteur très, très organique, tout polarisé au moment du tournage avec lui.
On va s'intéresser d'un peu plus près à Polignac. Comment vous le définiriez-vous?
Alors, en quelques mots, Polignac est un personnage parisien, de la haute société bourgeoise dans le domaine de l'art. Et c'est un personnage qui, de prime abord, a l'air très contenu, tiré à quatre épingles, rien ne dépasse. Il aime le contrôle, le pouvoir, les belles choses, les belles femmes. Son chemin, sa vie, va être un petit peu chamboulé par un certain Berlin.
Et ce qui est assez dingue, c'est que vous avez un parcours quand même assez fou. C'est qu'aujourd'hui, vous pouvez aller tourner en Angleterre, en Allemagne, vous pouvez tourner dans une fiction quasiment dans tous les pays d'Europe. Vous parlez quasiment toutes les langues européennes. C'est assez dingue, ça.
Mais oui, j'ai la chance de... Bah, je parle français, qui est ma langue maternelle, l'espagnol que j'ai appris là-bas, un peu à l'arrache, mais je me débrouille, l'anglais et l'allemand. Donc, effectivement, j'aimerais bien avoir la chance de continuer à faire ma interprétation, déjà. Et dans des langues et des pays différents. J'ai envie de faire des choses très très variées, en fait.
On termine par vos projets, Julien? Est-ce qu'on va vous voir dans d'autres choses, que ce soit en France, en Espagne, voilà, est-ce qu'il y a des choses qui vont arriver bientôt en dehors de Berlin?
Il y a des choses qui sont sur le feu, qui sont des choses qui sont signées, des choses qui sont en description, des castings qui continuent à tomber, mais rien dont je puisse parler pour le moment, si ce n'est une apparition dans la série Zorro.
Avec France Télévisions.
Ouais.
À découvrir bientôt. C'est une des prochaines grosses coproductions internationales de France Télévisions, effectivement. Zorro avec Jean Dujardin, si je ne m'abuse.
Tout à fait, ouais. Donc là, j'ai eu la confirmation que j'étais pris pour un rôle et je devrais aller tourner dans les mois qui viennent.
Bon, mais 2024 en tout cas s'annonce bien, comme on est dans les premiers jours de 2024. Julien, en tout cas, nous vous souhaitons une très très belle année 2024, pleine de beaux projets. En tout cas, pour la suite, merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Un grand merci à vous et une merveilleuse année à vous.
Berlin, c'est déjà sur Netflix, 8 épisodes. Julien Pascal est avec nous. Merci beaucoup Julien et on termine avec la bande-annonce.
Nous sommes ici pour préparer un casse de la plus grande maison de vente aux enchères de tout Paris. C'est pour ça qu'on est ici, en face de l'appartement de Monsieur Polignac, le directeur de la maison de vente. Pour accéder directement à la maison de vente, il nous faut rejoindre les catacombes de Paris.
Lundi prochain dans Chute, on écoute la télé.
Allez, lundi prochain dans Chute, on écoute la télé. Nous aurons le plaisir de recevoir Ahmed Silla, Mallory Wenek avec également Ali Maria pour notre spécial Comme un prince. On va parler également de Benoît Génant qui arrive sur TMC. À cette occasion, nous recevrons Esteban, mais également Eric Laven, le réalisateur, ainsi qu'Ornella Fleury, la comédienne principale. On parlera également de la sortie du film La Tête Froide avec Stéphane Marchetti, le réalisateur, et Florence Loire-Écaille.
Attitude.
Et n'oubliez pas que Chute, on écoute la télé sur Attitude, c'est aussi la quotidienne du lundi au vendredi à 10h07, 12h07 et 16h07. Vous pouvez aussi retrouver le podcast de cette émission dès ce soir, 20h, sur notre site internet onécoutelatélé.com et nous suivre tout au long de la semaine sur nos Facebook, Instagram et applications pour iPhone et Android. Chute, on écoute la télé. Cette émission sera également rediffusée demain soir à 19h. Alors il me reste plus qu'à vous souhaiter en tout cas une très belle après-midi à l'écoute de nos programmes sur Attitude. À tout à l'heure, 16h07. Pour la dernière quotidienne de la journée.
Chute, on écoute la télé avec France Pare-Brise Cognac. Intervention sur tout type de vitrage et sur tout véhicule. France Pare-Brise est agréé toutes assurances et vous propose le prêt d'un véhicule en cas de besoin. Alors n'hésitez plus. Prenez rendez-vous chez France Pare-Brise, 79 avenue de Sainte à Cognac.
Chute, on écoute la télé avec votre biscuiterie Les Caprices de Thérèse. Des biscuits fabriqués à Blanzac en Haute-Vienne avec un savoir-faire artisanal et un goût authentique. Découvrez toutes nos recettes en grande surface et sur la boutique en ligne lescapricesdethérèse.com. Les Caprices de Thérèse, dégustez l'excellence.
Chute, on écoute la télé avec Mazagran Immobilier. La Maz Team vous propose toute transaction immobilière pour particuliers et professionnels avec une connaissance parfaite de son secteur. Mazagran Immobilier, c'est deux agences en Charente, à votre service, à Angoulême et Villebois-Lavalette et sur mazagran-immobilier.com.